you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Page à page, nous nous retrouvons donc en ce vendredi ensoleillé. Alors aujourd'hui, je reçois Dominique Delpirou. Bonjour Dominique.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons vous présenter son nouveau recueil de nouvelles intitulé « Ma sœur l'ours » publié aux éditions Empreinte, une maison d'édition régionale puisqu'elle est basée à Portet-sur-Garonne.
Très toulousaine, très régionale, oui.
Voilà. Alors, des nouvelles originales parcourant différents domaines et environnements, toutes teintées d'humour, de clin d'œil et puis d'extraordinaire. On va le voir. Mais avant de vous en parler, reprenons les bonnes habitudes en vous présentant un autre livre. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le dernier Alain Monnier, le nouveau livre de l'auteur toulousain créateur des Parpots et qui revient avec un écrit sensible et délicat, L'esprit des lieux, publié aux éditions Climat. Alors, dans ce récit biographique qui parcourt 6 lieux de mémoire, Alain Monnier interroge l'intimité des lieux de chacun, explore les liens entre la petite et la grande histoire, avec sa sensibilité, son talent et son humour, toujours présent et dont on ne se lasse pas. Alors, cela va bien sûr du camp de Rivesaltes dans les Pyrénées, il avait d'ailleurs fait un livre sur ce sujet également, précédemment, en passant par la Villa Médicis ou la chapelle expiatoire de Louis XVI, ces lieux racontent qui nous sommes en élargissant à l'inconnu, aux autres, à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui nous survivront, notre sentiment d'humanité. Alors c'est à découvrir, c'est L'esprit des lieux d'Alain Monnier aux éditions Climat.
Page à page, Claire Ambille.
Merci à Alex pour la technique de cette émission. Alors Dominique, tu connais Alain Monnier?
Bien sûr.
J'imagine, voilà, dans ton métier de journaliste, tu as dû l'interviewer ou le être...
Je l'avais interviewé pour un livre qui s'appelle Seconde vie, je crois.
Ah oui.
Qu'il avait écrit il y a une dizaine d'années, qui était déjà très intéressant, où effectivement... On partait sur les vies virtuelles que vivent de plus en plus de gens à travers les jeux, à travers...
Oui, je me souviens de ce livre, effectivement. Tout à fait, oui, on partait. Oui, maintenant, c'est presque devenu ordinaire. C'est devenu le quotidien, notre quotidien, alors que ça pouvait à l'époque peut-être encore passer pour quelque chose. Mais là, maintenant, on est vraiment en plein dans la technologie.
Les deux pieds et les deux mains dedans.
Oui, voilà, c'est ça. Et alors, ce livre, L'esprit des lieux, pourrait t'inspirer
Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore regardé, il faudra que je voie.
Lieux ont une âme, de toute façon.
Oui,
ça. Et d'ailleurs, des lieux habités, nous allons en découvrir également dans ton recueil de nouvelles. Parce que de l'Aveyron...
Des lieux bizarres, hein. Des lieux bizarres.
Oui, mais enfin bon, aussi des lieux connus, de l'Aveyron à Toulouse, en passant par Luchon, ça c'est bien régional.
Tout à fait.
On va quand même jusqu'à la mer de Chine, là c'est un peu plus éloigné.
Un petit peu d'exotisme.
Ouais, oui,
pas
tout
de mal.
À fait. Alors le recueil c'est Ma sœur l'ours, un recueil donc publié aux éditions Empreinte, qui est composé de 11 nouvelles. Alors certaines sont très courtes, d'autres plus longues, mais toutes sont efficaces, la chute est bien présente, voire même certaines fois effrayante, peut-on dire, et ainsi que l'humour et les clins d'œil donc à certains thèmes ou événements actuels. Et puis aussi, je trouve, Dominique, que tu as non seulement tu as une imagination débordante, mais aussi tu es un peu comme un couteau suisse, tu es multiconnaisseur, comme tu nous entraînes aussi bien dans le domaine du jardinage que celui de la photographie, en passant par l'anthropologie d'espèces disparues. Alors certes, tu as la passion des dinosaures, mais quand même, ou encore la connaissance des anciennes locomotives. C'est quand même assez... c'est vaste.
Ça ratisse large, oui.
Ah oui.
En fait, mon problème, c'est que tout m'intéresse.
C'est-à-dire mais c'est pas un problème, je
j'avale
trouve.
J'avale tout. De temps en temps, un petit sujet comme ça me fait tilt. Et je vais vouloir m'intéresser à ce sujet. Et puis, de sujet en sujet, j'explore, je découvre, je gratouille. Et c'est vrai que de temps en temps, effectivement, ça percute avec des histoires. Tiens, je me dis, tiens, derrière cette histoire, il pourrait se passer telle chose et telle chose. Ou alors, c'est le contraire. C'est dans le cours de l'histoire, à un moment donné, j'ai envie d'expliquer quelque chose. Donc, je vais passer un bon bout de temps à me documenter.
Voilà, donc il y a un travail de recherche.
Il y a un travail de recherche. Quand on parle des locomotives, je n'y connaissais rien. Je ne connaissais rien aux locomotives.
Ah, oh, bah là, on croirait vraiment que tu as travaillé toute ta vie dans le ferroviaire. Enfin, je veux dire.
Voilà, non, mais. J'ai gratté tout ce que je pouvais savoir sur les locomotives. Et puis, à partir de là. Et c'est ça qui. Quand on fait un petit travail, justement, de recherche et d'investigation. C'est là-dessus que va s'adosser l'histoire. Si c'est pas crédible, si c'est pas sérieux, si c'est pas voilà, comme cette description ferroviaire, elle est crédible, elle est sérieuse,
oui,
elle est documentée,
elle est vraie, elle est vraie, voilà.
Donc là, on peut commencer
à partir sur
embarquer les voyageurs et à les mettre dans le train,
met dans le train
derrière la locomotive.
si ça avait été mal
ficelé, je pense que ça aurait moins bien marché.
Sûr. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est quand même, tu nous fais partager toutes les connaissances que tu acquiers donc au fil de l'écriture de ton écriture, et je trouve ça
alors je te rassure, je les oublie aussi vite. Voilà.
Alors la première nouvelle, c'est le titre du recueil en fait, elle s'appelle Ma sœur l'ours. Alors, c'est une nouvelle qui est assez longue, je crois même la plus longue du recueil. Alors elle se passe à Luchon, un lieu que j'affectionne particulièrement, et j'ai aimé retrouver d'ailleurs les allées d'Étigny, la montagne, j'ai bien aimé aussi les boules de neige qu'on agite, comme tu l'écris, un manteau de silence en poudre. J'ai le souvenir de ces petites boules de neige qu'on agite. On a tous ce souvenir de ça.
Mais la neige à Luchon, c'est très beau. Hein.
Oui, aussi.
Et au-dessus de Luchon.
Oui.
C'est magnifique.
Alors, le narrateur Pierre et ses parents qui sont hôteliers à Luchon, donc il a grandi entre les saisons de ski et puis les cures thermales. Alors, il devient passionné de photographie et il est fasciné par les animaux de la montagne, les isards, les ours. Et il fait sa première exposition de photos au casino de Luchon, qui est d'ailleurs un très beau lieu.
Très, très chouette, oui.
Oui. Et puis, le sort de l'ours lui importe plus que tout à Pierre. Il est très sensible à l'ours et à son devenir. Et on savoure également de belles descriptions de la forêt de sapins avec, je cite, des géants sourcilleux et muets, ces grands sapins-là. Et puis ainsi que des descriptions de la nature avec, je cite encore, la mousse respirait de toutes ses joues vertes. C'est joliment dit, je trouve. J'ai bien aimé. Oui, les joues vertes de la mousse. Et puis un jour, Pierre part en montagne pour photographier des ours. Et à côté d'une tanière, et là il va se passer quelque chose qui je ne sais pas si ça arrive souvent, je ne pense pas.
Heureusement.
Oui. Il se retrouve assommé et capturé par une maman ours.
Voilà, il se retrouve en fait blessé, donc
oui, blessé.
Incapable d'échapper à cette maman ours. Et donc cette maman ours va, dans un premier temps, donc elle s'est défendue, elle a assommé cet humain, mais dans un deuxième temps, elle va le prendre en pitié et elle va s'en occuper parce que ce malheureux Pierre est devenu assez handicapé, il ne peut plus faire grand-chose, mais il est toujours vivant et donc cette ours va le prendre en charge.
Et il va vivre donc avec elle et sa petite oursonne dans la tanière au fil des saisons, au fil des jours, au fil des nuits, avec sa tête abîmée par le coup de patte et qui lui ôte quand même une partie de sa mémoire. Sa vie d'avant.
Il est redevenu très très organique, quoi. Il vit,
c'est
jour
ça.
Le jour comme il peut. Il survit au rythme des ours, donc en mangeant des vers de terre.
Il se nourrit des baies, voilà, et des vers. Et puis, c'est la nature qui est omniprésente avec le ruisseau et ses eaux glacées qui descend directement des glaciers. C'est toutes ces descriptions de la montagne avec un très beau passage que je cite. Cela ressemblait beaucoup au bonheur car il n'y avait rien d'autre à vivre qu'un présent évident et sans question. Ne pas penser est un confort inestimable. Et c'est vrai, c'est tellement vrai, moi, je trouve.
Eh ben oui.
Le retour aux sources, enfin, le retour à... Alors, pendant les mois d'hibernation, alors, il y a des bribes de souvenirs de son ancienne vie qui lui viennent, ainsi que des rêves, comme par exemple l'harmonie blanche du Taj Mahal, alors qu'il n'est jamais allé en Inde.
Oui, non,
on ne sait pas pourquoi, ça vient.
Moi non plus, je ne sais pas pourquoi.
Alors, des instincts enfouis, comme tu disais, le réflexe de survie, bien sûr, mais aussi le comportement archaïque, s'adapter à une vie avec deux ours en pleine nature au fil des ans, c'est quand même assez exceptionnel.
C'est quand même moins compliqué que de s'adapter à certains DRH, hein, faut bien dire.
Oui, sûrement. sûrement. Alors, pendant sa captivité, le sort des ours est scellé avec l'autorisation de les tuer dès qu'on en voit un.
Oui.
Et ça, les ours le sentent. La prudence s'impose donc dans leur déplacement jusqu'à un certain jour, un jour sans vent.
Voilà. Et là, on va peut-être laisser les lecteurs
tout à fait.
Finir cette histoire.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a effectivement du rebondissement.
Il y a des rebondissements et puis il y a là aussi dans cette nouvelle une chute qui est, que j'ai beaucoup aimée. Il y a vraiment une chute impressionnante et pleine de questionnements finalement, parce que dans cette nouvelle qui est pleine de poésie, de tendresse aussi, il y a aussi du questionnement. Et puis, c'est dans un écrin de nature joliment mis en valeur et omniprésent.
Ben, merci.
C'est quand même important. On en a besoin de cette nature.
Bien sûr, on l'aime, cette nature. On est bien
dedans. On la protège plus assez. On l'a pas assez protégée.
Cette ours dans cette nature, ces ours, elles sont belles. Et voilà. Oui. Donc... on les aime aussi. Voilà.
Mais oui, tout à fait. Donc voilà, cette première nouvelle. Alors la deuxième du recueil s'intitule « J'aime Jean ». Alors cette nouvelle est très courte et très efficace. Je dirais même redoutable. Alors la nature y est présente aussi, puisqu'on cela se passe au jardin du Capitole, à Toulouse, avec des jardiniers qui entretiennent donc ce coin de verdure intramuros. Un jardin pas si tranquille finalement, et c'est un petit parfum de fantastique dans cette nouvelle, peut-on dire. Et puis, je pense que quand je vais passer prochainement dans ce jardin du Capitole, je vais repenser à J'aime Jean.
Oui.
C'est obligé.
C'est une nouvelle un peu mordante, on peut dire.
Oui, c'est ça, mordante. Le terme n'est pas... le terme est bien choisi. Alors, la troisième nouvelle, c'est La fille sous la pluie. Alors, on change un petit peu de domaine. On abandonne un peu la nature pour une autre dimension. Alors, Simon est journaliste à la Dépêche du Midi au Fait divers. Tiens, ça me rappelle quelqu'un.
Oui, tout à fait. J'ai commencé au Fait divers, la Dépêche du Midi, bien sûr.
Voilà. Donc, il prend en stop une jolie fille sous une pluie battante jusqu'à Villeneuve, à côté de Toulouse, et elle lui parle d'un roman policier qu'elle est en train de lire. Et lui se rend à Villeneuve, justement, pour un fait divers qui vient d'avoir lieu. Et il va vivre une journée assez particulière, peut-on dire.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que...
Avec là aussi un parfum de fantastique.
Oui, il va contribuer à résoudre une énigme policière.
Oui, c'est vrai que c'est...
Mais j'allais dire presque à l'insu de son plein gré, quoi.
C'est tout à fait à l'insu de son plein gré.
Qui s'impose à lui. Et on peut supposer qu'en venant là et en prenant cette autostoppeuse, il révèle tout un tas de choses totalement différentes de ce qui lui est arrivé. Voilà.
Tout à fait. Oui, il va vivre quelque
ça
chose.
Ça
ne
va pas se passer du tout.
Oui, pas du tout.
Voilà, comme,
pas du tout. Et j'ai bien aimé la description du pigeonnier.
Ah oui.
Voilà, il y a quand même la région, le côté régional qui réapparaît dans ce pigeonnier.
Voilà.
Alors, la quatrième nouvelle s'intitule « Le cloporte et les sardines ». Alors, elle est dédiée à Patricia Paris, auteure et psychiatre toulousaine disparue bien trop tôt et que l'on n'a pas oubliée.
Tout à fait, oui.
D'ailleurs, on retrouve dans cette nouvelle tous les titres de ses romans qui sont disséminés au fil de la lecture.
Bah oui.
Et donc, le patient, on va dire, tu dis au début donc, de cette nouvelle qui aurait bien, le patient aurait bien plu à Patricia.
Oui, parce que c'est un... Alors, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui délire ou si c'est quelqu'un qui existe vraiment. Mais en tout cas, s'il vit vraiment une vraie réalité, donc ça fait quand même un beau schizophrène, quoi. Hein,
on peut le dire.
Et si c'est pas un schizophrène, c'est un paranoïaque. Donc,
c'est un patient,
ou alors,
pour,
si
pour Patricia.
Ni l'un ni l'autre, c'est un visionnaire. Voilà, il a tout compris de la vie.
La chute de cette nouvelle est là aussi très efficace, hein,
voilà,
d'ailleurs.
Et donc, on va partir. Alors, c'est une nouvelle qui est inspirée de Lovecraft. Hein. C'est Howard Philip Lovecraft qui est un auteur américain qui écrivait des histoires absolument abominables de mondes parallèles et perpendiculaires, si on
D'accord.
peut dire, avec des fantômes, des monstres, des...
Tu as pensé à lui en écrivant
voilà,
cette...
Voilà, c'est-à-dire c'est la chute dans un monde parallèle. Quoi.
D'accord.
Voilà, c'est un peu ça, c'était des thèmes très chers à Lovecraft, qui lui, alors ça commençait toujours, quelqu'un qui va explorer une tombe, et puis dans cette tombe, il y a une porte, et puis derrière cette porte, il y a un autre
univers. Oui, donc ça continue.
Voilà, c'est des mondes successifs.
C'est un bel hommage aussi rendu donc à Patricia.
Patricia, voilà, c'était quelqu'un que j'adorais, dont la plume était vraiment magnifique.
Ah, oui,
et,
oui.
Et voilà, donc à un moment donné, le souvenir de Patricia s'est imposé. Et les choses sont venues toutes seules. Quand il a fallu mettre un psychiatre à la fin de la nouvelle, à l'hôpital Marchand, parce qu'on avait besoin d'un psychiatre, l'image de Patricia s'est imposée. Et voilà, donc les choses sont faites naturellement. Quoi.
Très bien. Alors, la cinquième nouvelle, c'est la grande forêt. Alors là, on part de nouveau la nature. Hein. On part en Aveyron, cette fois-ci, chez Gilbert, qui est un passionné de romans policiers et d'orchidées.
Oui.
Une nuit, une boule de pétanque atterrit dans son jardin et, si on peut dire, c'est le début de la fin.
Voilà,
pour résumer, pour laisser la surprise au lecteur, alors il y a question de nature, de végétaux, mais qui prend une envergure assez gigantesque, assez extraordinaire et planétaire. Et puis il y a beaucoup d'allusions pleines d'humour à des thèmes bien actuels comme les migrants, la protection de l'environnement, l'écologie, hein, donc, et puis encore l'indépendance de certaines régions.
Voilà.
Il y a plein de petites choses dans cette nouvelle.
C'est une nouvelle qui... j'aimerais bien que ce... Enfin, je ne sais pas qui va la lire, mais...
Beaucoup de monde, je pense.
C'est une réflexion sur... Et si nous, demain, on était obligés de quitter notre pays...
Comment serait-on accueilli ailleurs ?
Comment serait-on accueilli au Maghreb, en Pologne, si la France... Voilà, si on pouvait
Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'en Sibérie ?
Voilà.
Pour...
Comment
pour être accueilli.
Des trains entiers de Français arrivant en Ukraine, en Biélorussie.
Oui, et oui. Un questionnement. C'est important de...
Voilà,
c'est questionner
c'est allusif quoi hein, c'est
oui,
pas...
oui 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 c'est mais bon je trouve c'est enfin moi j'apprécie ces petites allusions disséminées dans tes nouvelles c'est important je trouve. Alors la sixième nouvelle s'intitule Merci mercredi. Alors il y a question dans celle-ci de cheval, un cheval un peu particulier. On peut penser à l'équithérapie d'ailleurs, hein, en quelque sorte. On retrouve la nature avec des belles descriptions de clairières, de cascades lors de la balade à cheval de Sophie, le personnage central de cette nouvelle. Et puis donc c'est une nouvelle au parfum, je dirais, de miracle, car oui, les miracles existent. Ça, j'en suis sûre.
Ah ben oui, avec les chevaux, tout est possible.
Ah oui, c'est un animal qui est...
C'est un animal magique.
Magique, ouais. Proche de l'homme, qui comprend l'homme.
Qui comprend plein de choses. Voilà. Voilà, donc ce cheval, il est magique.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'ai bien aimé cette... une nouvelle côté magique.
Je suis un rationaliste forcené qui adore les fantômes et les...
Et le côté magique,
et la magie,
extraordinaire des... Mm-hmm. Et ben, pour notre plus grand plaisir, Dominique.
Bon.
Alors, la septième, c'est Nostalgie ferroviaire. On en parlait tout à l'heure. Alors, une discussion très pointue sur les anciennes locomotives.
Voilà.
Voilà. Donc,
on n'en dira pas plus.
Non, à découvrir. La huitième, c'est Le Trou Noir. Alors, une nouvelle un peu effrayante, une vie à l'envers qui remonte le temps, avec une allusion à Descartes, le philosophe que l'on connaît bien. Mm-hmm. Et voilà, on n'en dira pas plus non plus. Et alors là, c'est très fantastique. Hein, comme,
oui, oui.
Comme nouvelle. C'est la plus fantastique, d'ailleurs, du recueil, Le Trou Noir.
Oui, oui, carrément, c'est de la science-fiction, quoi.
C'est oui, voilà, c'est une autre dimension. Mmh. Alors, la neuvième nouvelle, c'est « Tu as tué ma sœur ». Alors, décidément, dans ce recueil, il est beaucoup question de sœur. Hein.
Ah, oui, oui. Mmh.
Mais celle-ci est plus petite, dirais-je. Alors, beaucoup d'humour et on ne regardera plus les mouches de la même façon après la lecture de cette nouvelle.
Ah, ben, j'espère.
Voilà.
J'espère,
donc,
On ne les tuera plus de la même façon.
Non, tout à fait. Alors, la dixième, c'est Premier Amour. Celle-ci se passe à Toulouse. De nouveau, un rendez-vous mystérieux pour Florence, qui gère une entreprise familiale d'aéronautique. Je vais y arriver. Et puis, son premier amour, eh bien, de jeunesse, c'est Dimitri, le hippie de sa classe de terminale. Voilà, ouais. Celui qui jouait de la guitare. On en a tous connu un, hein, c'est rigolo. Ouais, hein, au lycée, on a tous connu un Dimitri qui avait les cheveux longs,
des grands yeux rêveurs.
Alors, on peut dire là aussi des retrouvailles magiques. Hein, il y a de la magie et puis une nuit très particulière avec un parfum d'autre monde.
Voilà, là aussi, c'est à la recherche du temps perdu, quoi.
Oui, c'est ça.
Le temps qu'on a perdu, qui se rattrape.
Peut-on le rattraper?
Est-ce qu'on le rattrape? Est-ce qu'on ne le rattrape pas? Est-ce qu'il est saisissable, insaisissable?
Et voilà. Ouais.
C'est un peu ça. C'est un peu nostalgique.
Oui.
Mais bon, des fois, il peut y avoir des fulgurances aussi.
Tout à fait.
Voilà.
À découvrir, donc. Alors, la onzième et dernière nouvelle de ce recueil, eh bien, c'est « Œuf de reptile ». Alors, c'est une nouvelle qui est dédiée à 6 personnes.
Oui, 6 personnes.
Oui.
Alors, ce sont tous des amis et des gens que j'aime beaucoup et qui sont tous un peu foufous. Ce sont des passionnés de dinosaures. Alors, il y a Jean Leleuf, qui est le directeur du musée des dinosaures à Esperanza. Il y a Didier Descoings, qui lui aussi est le président de l'Institut Picot de la Pérouse, il y a Francis Duranton qui est le directeur du muséum, il y a, voilà, j'ai tous les cités parce qu'il ne faut pas que je les oublie. Il y a François Esculier qui chasse, lui, le fossile de dinosaure à travers le monde entier. C'est un véritable Indiana Jones. Il y a José Braga qui, lui, va chasser les Australopithèques en Afrique du Sud, qui en a trouvé des tas. Il y a Pierre-Olivier Antoine qui lui aussi était un paléontologue qui a découvert avec Wellcome le plus grand mammifère terrestre au fin fond du Baloutchistan. Ce sont tous, j'ai tout cité, voilà. Ce sont tous des fous furieux, adorables, merveilleux, qu'on écoute à bouche bée et qui font rêver. Ce sont des personnages merveilleux à qui je voulais rendre hommage.
Existants.
Qui existent tous.
Alors justement, cette nouvelle se passe au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse avec Anna qui est conservateur et lors d'une exposition temporaire d'une collection de 15 000 œufs. Ça va de l'aigle d'Australie, perdrix rouge, pétrel géant et un œuf de reptile qui va mystérieusement se casser dans la vitrine. On aurait dit un œuf en chocolat, je cite. Et s'ensuit alors un mouvement de panique au muséum, bien sûr, avec sa fermeture. Et puis Anna va rencontrer un personnage haut en couleur, l'ancien conservateur du muséum, qui est aussi un ancien rugbyman de 2 mètres, un baroudeur et un collectionneur de fossiles, justement, et qui va lui raconter l'incroyable histoire de l'œuf noir, celui-là même qui s'est brisé dans la vitrine du muséum. Alors là, on part en mer de Chine, sur une île déserte et mystérieuse, au cœur d'une jungle fantastique et peuplée d'êtres très particuliers, d'êtres vivants très particuliers.
Ah bah oui.
Alors les passages, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup de passages pleins d'humour quand Anna passe justement une journée entière à écouter l'ancien conservateur du muséum lui raconter cette histoire extraordinaire. Alors il lui sort un tas de bonnes victuailles de la région, des bons vins et il lui raconte cette histoire et on voit Anna la conservateur qui part un peu...
Oui, c'est
amusant,
plutôt,
enfin
c'est
je veux dire...
Une,
une jeune femme un peu sérieuse, un peu collée montée,
oui.
un peu coincée, etc. Et le Bernissart, c'est le contraire, quoi. C'était
voilà.
Lui aussi, c'est un fou furieux qui
ah oui,
est excessif.
Oui.
Voilà, donc bout d'un moment, elle est complètement saoule. Elle avale toute cette histoire. Alors, cela dit, je reviens au tout début de l'histoire.
Ah,
c'est que il existe réellement au muséum une collection d'œufs. D'oiseaux absolument extraordinaires.
Il y a un œuf de reptile dedans.
Allez voir au muséum. Et justement, Didier Descoings, il a passé des journées entières à photographier ces œufs pour les mettre sur Wikimedia. Ces œufs qui constituent une collection merveilleuse, on peut les voir sur Wikimedia.
D'accord.
Et donc ensuite, tous ces personnages, on va les retrouver effectivement.
Au cours de l'histoire que raconte.
Pas ceux dont je parle, mais on va retrouver des personnages qui leur ressemblent, quoi.
Oui, qui leur ressemblent, tout à fait.
Qui sont des baroudeurs, qui vont au bout du monde pour chercher, pour trouver
l'œuf, enfin, ou l'objet.
En fait, il y a une histoire autour de cet œuf, et voilà.
On n'en dit pas plus, mais il y a aussi une allusion à la lettre volée d'Edgar Poe que j'ai bien aimé, que j'ai relevé, puis aussi au film King Kong et sa bande originale mémorable, avec cette île mystérieuse en mer de Chine.
Cette histoire-là, c'est un hommage à King Kong et à tous ces films de série Z, de série B avec des dinosaures. Voilà, qui m'ont fait rêver.
Toi, le passionné de dinosaures, tu étais obligé que tu fasses une nouvelle pleine de dinosaures.
Voilà.
Alors, une nouvelle là aussi teintée d'humour, comme je le disais, et puis d'extraordinaire, et dont la chute est là encore très efficace, voire même glaçante, si on peut dire. Voilà. Alors, on arrive un peu au terme de cette émission. Alors, merci Dominique pour ce recueil de nouvelles qui nous transporte dans des contrées et des dimensions variées et captivantes. Puis aussi avec des personnages qui, au départ, sont des personnages ordinaires, mais qui vont vivre des histoires extraordinaires. Et c'est un recueil plein d'humour et d'imagination. Alors, merci beaucoup, Dominique,
d'avoir partagé avec nous, qui m'invite régulièrement pour mes livres et qui c'est toujours un plaisir de venir ici à page et de voir avec quelle précision, quelle bienveillance et quelle intelligence tu décortiques ces pages, et ça fait plaisir.
Merci Dominique. Alors, ce recueil, donc, te tenait à cœur de l'écrire celui-ci spécifiquement.
Celui-ci, disons
que tu t'es amusé.
Voilà,
je pense que tu t'es amusé.
C'est imposé à moi. Il y a certaines nouvelles qui ont été écrites il y a 25 ou 30 ans, comme par exemple La fille sous la pluie ou J'aime Jean, elles ont été écrites il y a très très longtemps, ou Tu as tué ma sœur. Et puis voilà, ces nouvelles étaient un peu au fond d'un tiroir, et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire d'autres nouvelles avec toutes les idées qui se bousculent et que j'ai toujours eues, et voilà. Donc
c'est comme ça qu'il est, que Ma sœur l'ours, donc, aux éditions 1 Empreinte, de Dominique Delpirou. Alors, tu as d'autres projets d'écriture?
Oui, alors ça continue dans les dinosaures, tant pis.
D'accord.
On verra bien.
On est prévenus, les grosses bêtes.
les grosses bêtes.
Tu reviendras nous en parler à page?
Oh, avec grand plaisir.
Merci Dominique. Et on se quitte avec ton choix, donc, de musique finale pour terminer l'émission. C'est bien sûr la bande originale de King Kong, justement. Et tu l'as choisi par rapport à la dernière nouvelle.
Exactement,
j'imagine.
Voilà, tout à fait.
Merci beaucoup Dominique.
Merci Claire.
Adiciat.
Adiciat.